Un jour, un baptisé qui avait un désir de grandir avec Jésus, au cours d'une discussion que j'avais avec lui, me dit « Mais vous savez, mon père, le service des pauvres et des petits, ce n'est pas mon charisme. » Se mettre auprès des plus petits, des plus pauvres et des malades, ce n'est pas une question de charisme, c'est une question de foi et de christianisme. Et ce n'est pas une option. Si je suis chrétien, si pour moi Jésus est ressuscité, je dois, c'est un devoir, être auprès de ceux vers qui Dieu m'envoie en particulier, de ceux qui sont dans le besoin, quels que soient les besoins qu'ils ont. Et Thomas, est pour nous cette image de celui qui comprend tout et qui voit au-delà. Car j'en ai un peu ras-le-bol d'entendre « moi, j'ai la foi de saint Thomas ». La plupart du temps, c'est « je crois que ce que je vois ». Mais c'est faux, ça, c'est pas la foi de saint Thomas. T'as pas lu l'Évangile si tu dis ça. À la rigueur, t'es chrétien, un peu dans l'hérésie, voire peut-être beaucoup. Mais t'es pas un thomiste, ni Thomas d'Aquin, ni Thomas l'apôtre. Car justement, Thomas, quand il voit Jésus, l'homme ressuscité, quand il voit les plaies, quand il voit le cœur transpercé, il voit Dieu. Dans celui qui a été endolori, celui qui a été transpercé, il voit Dieu. Et c'est pour ça qu'à notre tour, en tant que chrétien, qui plus est en tant que catholique, nous sommes appelés, frères et sœurs, à les rencontrer justement dans celui qui souffre, dans celui qui est dans le besoin, Dieu. Et saint Matthieu le dira dans l'Évangile, et Jésus le dira en saint Matthieu plutôt, « J'étais malade, vous m'avez visité, j'étais nu, vous m'avez couvert, j'avais soif, vous m'avez donné à boire, j'étais en prison, vous m'avez visité. » Et diront « Quand est-ce que nous avons fait cela, Seigneur ? Quand vous l'avez fait à l'un de ces petits, c'est à moi que vous l'avez fait. » Oui, mets la main dans la marque des clous, mets le doigt dans la marque des clous, mets ta main dans le côté du Christ en te mettant auprès des plus faibles et des malades, en allant visiter ce que personne ne visite, en allant rencontrer ce que tout le monde rejette. Cette semaine, nous avons été avec la plupart d'entre eux du diocèse, et puis de plusieurs qui sont là ici, a priori le retour a été très tard hier soir, donc la messe de ce matin a été plus complexe. Mais nous étions à Lourdes, ce lieu où justement la souffrance est mise à l'honneur, où la maladie n'est pas cachée, où on arrête de jouer à cache-cache, on arrête de mettre des façades. Là, Lourdes, où nous sommes les uns les autres en vérité, car un bien portant qui va voir un malade se prend une claque, car il ne sait pas aimer, il se rend compte qu'il ne sait pas faire. Et face à un malade qui lui dit sa joie d'être là, sa joie d'être à Lourdes, sa joie de connaître le Christ, de dire combien Dieu parfois vient le relever, eh bien ça vient nous remettre en ordre les idées et nous rappeler que tous nous avons un cœur blessé, un cœur qui ne sait pas aimer, un cœur transpercé. Et en ce dimanche de la miséricorde, laissons justement ce cœur transpercé du Christ. Nous arrivons à la fin de la neuvaine de la miséricorde, c'était vendredi 5, ça commençait, et aujourd'hui nous sommes au 9e jour. Dimanche de miséricorde, ce cœur du Christ transpercé est venir joindre notre cœur transpercé. Et justement, cessons de vouloir des signes grandioses, mais en voyant nos frères et sœurs dans la difficulté, dans l'épreuve, sachons y voir Dieu. Tel Thomas, qui voyant le Christ ressuscité avec les plaies, n'y voit pas seulement un homme vivant, mais y voit le Dieu qui donne la vie. Tout cela a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Avoir la vie de Jésus, avoir la vie en Jésus ressuscité. Oui, cette vie nous est donnée par Dieu en Jésus. Cette vie, nous devons nous laisser Le Christ nous l'a redonné. Le Christ nous l'a transformé. Nos vies banales, nos vies routinières, nos vies habituées, parfois trop habituées, nous devons laisser le Christ venir la transformer, comme les apôtres. Les apôtres qui ont vécu quelque chose de transformant et qui tout à coup a été attirant. Alors certains diront, oui, mais ça c'était il y a 2000 ans, et puis les actes des apôtres, voilà, il devait être un peu marseillais, donc il a un peu grossi les chiffres, donc forcément il faut être vigilant, prudence, et patati et patata. Oui, cache-toi derrière ton petit doigt, ça t'évitera de te convertir. Mais justement, ils le savaient les apôtres, eux, ils avaient fui, ils avaient renié, ils avaient trahi. Ils savaient qu'ils étaient pauvres et petits. Ils le savaient. Mais ils ont laissé le Christ venir en eux. Et au soir de la résurrection, il souffla sur eux, recevait l'Esprit Saint. Il leur donne une mission. Il leur dit pas, bon bah c'est foutu, je vais en prendre d'autres. Non, il veut passer par eux. C'est peureux, c'est fuyard. Dieu les choisit. Alors si tu te sens peureux et fuyard devant Dieu et devant les autres devant qui tu dois témoigner et que tu fuis, t'inquiète pas, t'es pas pire que les apôtres. Mais regardons de près, dans les actes des apôtres, comment la communauté a grandi. Certes, il y a eu quelques phénomènes assez impressionnants. Je ne peux pas le nier. Mais quand nous voyons les actes des apôtres, certains le savent, ils l'ont peut-être entendu, ils se sont dit, tiens, ça y est, il va nous la ressortir, et oui. Nous voyons les cinq dynamiques de croissance d'une communauté. Les actes des apôtres, et ce passage-là que nous avons, nous montrent les cinq dynamiques d'une croissance d'une communauté. Et s'il manque c'est un des cinq, c'est comme la planche d'un tonneau. Eh bien, pour que le tonneau soit plein, il faut que toutes les planches soient à la même hauteur. S'il y a une planche qui est plus basse, ben, il sera plein à la hauteur de la planche. Alors, pour la croissance de notre communauté, nous avons besoin de cinq grands ingrédients que les actes des apôtres nous montrent et que, justement, une communauté en croissance vit. La relation au Père, la vie de prière. Je suis fils de Dieu. Les apôtres le vivaient. Ils priaient ensemble. Et importance de prier ensemble. La fraternité. Avoir des frères et savoir que nous sommes des frères. Pas seulement des amis, mais des frères. Cette fraternité qui est vécue. Où justement, ils prennent leur repas dans l'allégresse, la simplicité de cœur. Cette dimension-là, une fraternité concrète, pas simplement en pensée très fort. Mais j'ai un frère à aimer, un frère avec qui vivre, même au sein de cette assemblée. Dimension de disciple. Disciple du Seigneur, disciple qui écoute la parole de Dieu et la met en pratique, disciple qui fait grandir son intelligence pour comprendre toujours plus le mystère de Dieu et se laisser aimer, comprendre pour croire et croire pour comprendre, disait saint Augustin. Entrons dans ces dimensions, justement. Notre foi n'est pas simplement un lot de choses que j'ingurgite, mais que j'accueille et que sans cesse je vais comprendre, approfondir. Et un chrétien qui n'approfondit pas sa foi n'est pas vraiment chrétien. Oui, mon père, vous savez, j'ai la foi du charbonnier. Tu n'es pas charbonnier. Alors cesse d'avoir la foi du charbonnier. Et quand tu étais en CM2, tu avais la foi d'un CM2. Mais si ta formation intellectuelle, ta formation spirituelle, ta formation de foi s'est arrêtée au CM2 quand tu as fait ta première communion, tu n'es plus en CM2. Enfin, sauf s'il y en a qui sont en CM2 dans l'Assemblée. Mais globalement, non. Voilà. Donc là aussi, arrêtons de nous cacher derrière notre petit doigt. Il va finir par être un gros doigt. Après cela, le service. Le service, ils mettaient tout en commun. Ils partageaient les produits entre tous en fonction des besoins de chacun. Et saint Jacques, dans une de ses lettres, dira justement, si tu vois ton frère qui est nu et tu dis qui a faim et tu dis rentre chez toi et le Seigneur te comblera, mais que tu fais rien, ta foi est morte. Montre-moi ta foi par les actes. Alors les actes ne suffisent pas pour la foi, mais ça vient montrer ce que je crois. Et puis enfin la mission, l'évangélisation, le témoignage que nous avons tous à rendre. Quand la Vierge Marie est apparue à Bernadette et qu'elle lui dit que Bernadette va voir le curé Père Amal à l'époque et lui dit ce que la Vierge Marie lui dit, et le curé lui répond comme un bon curé, il avait raison, et tu crois que je vais te croire ? Je comprends qu'à ce moment-là, le curé est un peu désarçonné. Réponse de Bernadette, je ne suis pas chargé de vous faire croire, je suis simplement chargé de vous le dire. Alors, avant d'avoir peur de nous faire critiquer pour prosélytisme et nous cacher derrière ça, eh bien, soyons courageux de dire ce que nous vivons comme chrétiens. Et parfois, osons le dire, je fais cela parce que je suis chrétien, ou je renonce à faire cela parce que je suis chrétien. Et ne soyons pas de ces loups qui crieront sur l'Église en disant « Oui, mais un jour l'Église va changer, elle va se transformer, de toute façon il n'y a qu'à attendre, on verra bien. » Non, le Christ est toujours le Christ, il est mort et ressuscité, il ne bougera pas. Mais par contre, nous pouvons accueillir et sans cesse, au lieu de nous dire « ça ne va pas », nous dire « je ne comprends pas encore, mais je vais travailler pour comprendre ce que le Christ et l'Église me disent. » Cessons d'hurler avec les loups, soyons les brebis du troupeau, suivons le Christ et faisons-lui confiance. Oui, ainsi, fils du Père, frère, disciple, serviteur et missionnaire, nous serons vraiment chrétiens, qui plus est catholiques. Alors, nous serons comme Thomas, n'ayant plus peur de toucher les membres souffrants du Christ. Car oui, nous sommes le corps du Christ. Et quand je vais me mettre au service d'un membre souffrant du Christ, du corps du Christ, c'est le Christ que je viens toucher. Et comme Thomas, face à ce frère, à cette sœur, faible, petite, je peux m'exclamer « Mon Seigneur et mon Dieu, Amen ».